Bien, bonsoir, bonjour tout le monde. J'ai le grand plaisir de vous présenter M. Eberhard Kienle, qui est d'abord pour moi un ami de longue date, quelques décennies me semble-t-il. Voilà, absolument, c'est du copinage. Il faut le revendiquer, mais qui peut être défini comme un chercheur européen dans la mesure où d'origine allemande il a fait ses études en France, ce qui l'a conduit à enseigner en Angleterre. Donc il a été pendant un temps enseignant à la SOAS, à School for Oriental and Asiatic Oriental and African Studies, un peu l'équivalent de nos langues aux parisiens. Et puis ensuite il s'est lancé dans une carrière française et internationale, puisque de la SOAS il a pris la direction du plus grand labo d'études islamiques en France, qui est l'IREMAM, à Aix-en-Provence, ce qui l'a ensuite conduit, de toute façon tout à fait logique, n'est-ce pas, à devenir directeur de la Fondation Ford américaine au Moyen-Orient, qui l'a permis ensuite de revenir en France pour repartir, prendre la direction de l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth. Alors, ses talents linguistiques sont absolument effrayants, puisqu'il parle d'une demi-douzaine de langues comme s'ils étaient maternelles. Il a une œuvre, entre ses tâches administratives, il a quand même une œuvre scientifique, essentiellement en sciences politiques. Il a fait des... surtout dans un domaine que j'aime beaucoup, qui est l'économie politique. Et il avait fait dans les années 90 une économie politique de la Syrie et une économie politique de l'Égypte. D'ailleurs, on avait tenu des séminaires fermés à Beyrouth pour l'avenir de ces deux pays. On avait conclu que les dictatures resteraient. Alors, elles sont venues, elles sont reparties, enfin bref... voilà. Donc, aujourd'hui, M. Kienle est au CERI, Centre d'études de recherche internationale de l'Institut des études politiques de Paris. Il n'en a pas pris la direction, pour une fois. Donc, il va vous parler aujourd'hui de l'après-État islamique, parce que j'ose pas... prononcer le nom que beaucoup prononcent comme étant une marque de lessive. Donc, après l'État islamique, reconstruction ou non de l'État en Syrie et en Irak. Eberhard, c'est à toi.
Alors, merci Henri. Vous m'entendez bien? J'ai beaucoup de mal avec ce genre de micro qui nous demande de nous abaisser devant eux. Mais si vous m'entendez bien, je ne bouge pas trop. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu et merci Henri de cette introduction, de cette présentation dans laquelle je ne me reconnais qu'à moitié, au fait, parce que, tu dis beaucoup de bien de moi, je ne suis pas sûr exactement si tu parles de moi ou de quelqu'un d'autre, mais je vais évidemment essayer de répondre aux attentes aujourd'hui. Alors, l'intitulé, et en plus, devant une salle, normalement, j'ai l'habitude de parler devant des séminaires beaucoup plus réduits, on est autour d'une table, alors je vois que ton séminaire, il fait le plein. Et merci donc encore une fois d'être venu m'écouter. Alors, l'intitulé que vous avez probablement vu quelque part de cette conférence est « De la défaite de l'État islamique à la résurrection de l'État, la Syrie et l'Irak entre désintégration et résilience ». Alors, c'est un peu compliqué, j'y conviens. Tu l'as très bien résumé, au fait, on peut donner un titre beaucoup plus bref, mais je voulais aussi la situation est complexe, vous allez le voir, vous le savez déjà, mais je voulais aussi, par ce intitulé un petit peu alambiqué, je voulais aussi dire que la conclusion que je tirerai de ces 45 minutes, de cette heure de conférence, est d'une conférence... et d'une conclusion, et disons, on pourrait dire ambiguë, on restera dans l'entre-deux. On restera en effet entre résilience de l'État et résiliation de l'État. Donc on restera un petit peu entre les deux, parce que l'avenir des deux pays n'est pas trop clair, il ne va pas, on le verra, l'avenir des deux pays ne sera pas nécessairement la reconstitution d'un État comme on le connaît en France ou en Europe, ça ne sera pas non plus très probablement le chaos complet dont on a peur, dont on parle beaucoup. Donc voilà, l'intitulé un peu pour aussi voilà, là, un peu anticiper sur les résultats de cette petite enquête sera entre les deux. Voilà, donc c'est pour ça c'est l'intitulé un peu compliqué. Alors ce que je vais faire pendant cette heure ou ces 45 minutes, on verra bien comment ça se passe. Alors d'abord, évidemment, je vais revenir un petit peu sur l'actualité. Je pense que c'est utile pour planter les décors, pour parler du cadre de ce qui se passe actuellement. Je vais aussi revenir rapidement sur ce que c'est l'État islamique, très rapidement, parce qu'il y a déjà une littérature qui est assez importante. Puis je vais passer aux attentes actuelles, ce qu'on attend, ou le public, mais pas seulement le public instruit, mais aussi de nombreux administrateurs, nos hommes politiques, à quoi ils s'attendent actuellement, encore en tout cas une bonne partie d'entre eux, comment ils pensent que les choses vont rapidement changer, et à mon avis c'est une illusion. Voilà, je reviendrai sur cette question-là. Voilà, pour étayer ce que je dis, je parle de la situation de l'Irak récente, de la Syrie récemment, et on verra que ce qui s'est passé avec l'État islamique, l'émergence de l'État islamique et sa défaite, en tout cas sa défaite militaire, programmée, disons, s'inscrit dans un cadre de divisions internes qui ne vont pas disparaître, qui sont en plus anciennes. Et après, pour terminer, voilà, il y aura quand même peut-être quelques lumières à l'horizon qui sont que, en effet, ces États ne sont pas nécessairement aussi divisés et aussi dysfonctionnels qu'on ne le pense. Et voilà, donc, tout ça pour dire que probablement, on va rester dans une situation qui ressemble beaucoup à ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y aura, disons, ni résiliation, ni résilience complète de l'État. Alors, bon, pour parler très rapidement de l'actualité, que vous suivez certainement tous, et là, bon, enfin, je ne fais que résumer ce qu'on voit dans la presse, hein, ce qu'on voit dans les dépêches, c'est ce que, après une période d'expansion peut-être assez rapide et assez importante, Daesh ou l'État islamique en Irak et au Levant, il y a différents noms, IS, ISIL et ainsi de suite, mais tout ça c'est la même chose. Et donc après une période d'expansion et qui a trouver un apogée, on pourra dire, en 2014, quand la ville de Mossoul est tombée, et à la même année, la ville de Raqqa, donc à un moment où l'État islamique, là, malheureusement, je n'ai pas de carte et je n'ai pas l'habitude de vous présenter des PowerPoint que je déteste, mais vous visualisez très bien la carte du Proche-Orient. En 2014, l'étendue de cet État islamique, ou soi-disant État islamique, allait quand même des abords d'Alep aux abords de Bagdad, donc occupait quand même une bonne partie de la Syrie, de l'Irak, avec justement les villes de Mossoul, de Raqqa, de Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, il y avait toujours une poche de résistance de l'armée syrienne officielle, mais aussi de Palmyre ou de Tadmour, des événements qui ont évidemment défrayé la chronique. Donc en 2014, on avait l'impression que c'était une étendue assez vaste, évidemment largement une étendue aussi désertique, mais désertique avec des champs pétroliers. Et donc c'était quand même quelque chose qui était assez important. Alors, il faudra peut-être ajouter que ceux qui étaient étonné en 2014 de l'arrivée, de l'avènement rapide de cet État islamique, et enfin, qui s'est après aussi déclaré un califat, même si voilà, ça n'avait pas à dire grand-chose et qu'il n'avait pas beaucoup de ressemblance au califat historique, ni ottoman, ni abbasside, ni omayyade. Bon, mais là, il y a des gens comme Henri, qui sont beaucoup mieux qualifiés de parler de cette question, et que l'avènement rapide, ou entre guillemets rapide, de cet État islamique était évidemment Il était pas nécessairement prévisible, mais quand même, il y avait des précurseurs. Ceux qui avaient suivi l'actualité de l'Irak et l'actualité de la Syrie le savaient. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas le savoir, qui étaient un peu négligents. Mais il y avait évidemment le signe précurseur de tout ça depuis 2005, 2006, 2007. Et tout ça, ça s'inscrit largement, évidemment, dans les suites de l'intervention américaine en Irak en 2003. Et donc, ce n'était pas tout à fait une surprise pour ceux qui ont suivi. N'empêche que, voilà, il y avait quelque chose qui a une force armée qui a occupé un territoire assez important et qui a, en effet, commencé à établir des structures qu'on peut appeler étatiques. On peut les appeler para-étatiques, on peut les appeler étatiques, mais il y avait une administration, il y avait une sorte de gouvernement, même si, évidemment, les termes utilisés n'étaient pas exactement les mêmes. Les ministères, pour ainsi dire, on les avait souvent désignés comme des conseils, comme des conseils populaires. Alors, je ne suis pas sûr si les conseils populaires de la Libye, de Kadhafi, étaient le modèle, je ne crois pas. N'empêche que, voilà, peu importe les termes qu'on utilise, il y avait une administration qui avait une répartition des tâches, il y avait des parties de l'administration qui s'occupaient de la sécurité, qui s'occupaient de l'imposition des normes que l'État islamique considérait comme islamique. Il faut insister là-dessus parce que, bon, ce qui est islamique, c'est sujet à débat. Chacun a sa propre définition, et l'État islamique, évidemment, avait la sienne. Il y avait des services sociaux, il y avait des services de la voirie, et ainsi de suite. Donc, on avait établi une sorte d'administration et quelque chose qu'on peut tout à fait appeler quelque chose comme un État, à une exception près, qui était évidemment celle de la reconnaissance internationale. Normalement, on pense qu'un État qui a des structures, des administrations, et qui, évidemment, est le dépositaire du monopole, voilà, belle phrase weberienne, dépositaire du monopole, en plus légitime, ben ça, on pourra y revenir, c'est un peu plus compliqué, mais disons, le dépositaire du monopole des forces de coercition, c'est-à-dire que c'est l'État, uniquement l'État qui, dans un territoire gouverné et sur une population, dans un territoire précis et sur une population précise, dans des frontières bien délimitées, que c'est uniquement l'État qui a une gendarmerie, une police, une armée, des gens qui portent l'arme, et que c'est évidemment eux qui sont toujours les plus forts et qui l'emportent en cas de... Ça, c'était pas tout à fait vrai pour l'État islamique, parce qu'il se reposait quand même pas mal sur ce qu'on appelle des tribus, mais surtout, il n'avait pas de reconnaissance internationale, comme tout un chacun le sait. Après cette période d'expansion, l'État islamique, depuis quelque temps, depuis 2016, surtout en 2017, se rétrécit comme une peau de chagrin, on peut dire. Et actuellement, j'ai entendu, maintenant, je n'ai pas pris les mesures moi-même, mais actuellement, il paraît que le territoire de la Syrie qu'occupe l'État islamique encore s'élève à 5% de la surface de la Syrie. Donc, après cette expansion, ça se rétrécit très rapidement. Évidemment, ça ne se rétrécit pas tout seul. Ce n'est pas l'État islamique qui part, c'est la coalition internationale, d'une part, qui le pousse dans ses réduits et qui le pousse dehors. Et d'autre part, c'est évidemment l'armée syrienne étayée par le Hezbollah libanais et par l'armée russe, ou par les armées russes, plutôt l'aviation russe et l'armée iranienne, ou les gardiens de la révolution iranienne, qui sont à l'œuvre et qui font que l'État islamique est en train de perdre probablement cette bataille dont la fin, notre président a annoncé il y a quelques jours pour janvier ou février, ce qui est tout à fait réaliste. Seulement, il ne faut pas se leurrer, la fin militaire ou la fin des troupes militaires, des vraies troupes, régulière peut-être non, mais quasiment régulière de l'État islamique, n'est pas nécessairement à la fin de l'État islamique. Il va essaimer, il l'a déjà fait, il s'installera ailleurs, en Libye, en Asie et ailleurs. Et évidemment, il y a aussi toute une bonne partie de ces gens qui vont se fondre dans le sable ou dans la vallée de l'Euphrate et qui vont réapparaître le moment venu. Et donc ce n'est pas nécessairement une défaite. Mais ce qu'il faut retenir, donc, voilà, on avait en effet quelque chose qui s'est construit pendant quelques années, qui a ressemblé à un État, qui n'avait pas nécessairement des frontières fixes, parce que les frontières étaient toujours en évolution, mais il y a d'autres États dont les frontières, pendant très longtemps, ne sont pas fixées, prenons les États-Unis pendant toute la formation des États-Unis, où évidemment les frontières étaient toujours déplacées davantage vers l'Ouest. Les frontières fixes, on pense que c'est normal pour un État, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc l'État islamique, il avait un territoire, il avait une population sur laquelle il exerçait son pouvoir, il avait une structure semi-étatique, étatique avec des administrations, il avait quasiment le monopole des forces de coercition dans ce territoire, seulement il n'avait pas de reconnaissance internationale. Alors voilà, il y avait cet État islamique qui était là, et qui maintenant se rétrécit et est probablement en train de disparaître. Alors, peut-être encore une petite remarque. Le caractère étatique de l'État islamique a été mis en cause aussi pour des raisons diverses, pour des raisons autres. Souvent, on a dit que c'était un régime terroriste, c'était un régime de terreur aussi à l'intérieur de l'État, que c'était un régime basé sur la corruption, sur beaucoup de choses qu'on n'aime pas et qu'on n'associe pas avec un État qui fonctionne. Mais bon, encore une fois, il y a beaucoup d'États qui fonctionnent sur la base de la corruption, il y a beaucoup d'États qui règnent à l'intérieur par la terreur. Donc là, c'est pas une exception. Donc tout à fait, on peut dire que, sauf la reconnaissance internationale, c'était bel et bien quelque chose qui ressemblait à un État. Et surtout, la corruption et la terreur sont deux facteurs ou des éléments qui ont largement caractérisé l'État syrien et l'État irakien qui précédaient l'avènement de l'État islamique. Donc si l'on parle d'un État irakien, d'un État syrien qui aurait été là avant, enfin qui a été là d'une certaine manière, mais que ça aurait été plus un État fonctionnel, weberien, et ainsi de suite, ce n'est tout simplement pas vrai. Il y avait des États qui étaient là, des États internationalement reconnus, mais qui avaient à beaucoup d'égards les mêmes défauts que présentait l'État islamique avant. Donc tout cela pour dire que, en effet, on est... Et d'ailleurs, il y a quelqu'un, le dernier gouverneur de Mossoul, c'est aussi quelqu'un qui a un petit peu défrayé la chronique dans un temps, Afil al-Nouaifi. Comment il s'appelait ? Afil al-Nouaifi, voilà. Qui avait déclaré en public, qui a détaillé en public combien l'État irakien dans le nord de l'Irak, à Mossoul, était corrompu, dysfonctionnel, ce qui, selon lui, avait justement permis à l'État islamique de prendre Mossoul en 2014. Donc on a beaucoup d'éléments qui le soutiennent. Alors maintenant, on est dans une situation où, après cette expansion, il y a le rétrécissement, et il y a peut-être la disparition de cet État, en tout cas des signes visibles de cet État. Et là, c'est le moment où une bonne partie d'entre nous, je pense, mais aussi dans les chancelleries, dans les think tanks, aussi des collègues universitaires, certains pensent que maintenant, c'est le moment de la résurgence, de la réapparition, de la reconstruction de l'État irakien et syrien. Donc ces deux États auraient été, pour ainsi dire, marginalisés, repoussés par l'État islamique. Et maintenant, c'est le moment pour eux, ou bien de revenir tout seuls, c'est-à-dire après cette défaite militaire, ce sont les États qui eux-mêmes reprennent les rênes, qui eux-mêmes s'imposent à ces sociétés, à ces différents forces politiques qui ont œuvré dans les territoires dominés par l'État islamique, et que donc d'une manière ou d'une autre, tout seul ces États reviendraient et que tout serait comme avant, et que même ce seraient des États fonctionnels, ou bien que maintenant, si ce n'est pas les États qui eux-mêmes, ou Bagdad, les capitales Bagdad et Damas, qui réussissent à s'imposer sur ces territoires entre guillemets libérés, que maintenant c'est le moment de la reconstruction, une reconstruction pas seulement par les forces disons endogènes, mais avec l'aide de l'Europe, des États-Unis, pour reconstruire ces États. Alors ça, à mon avis, bon évidemment, c'est un scénario, tous les scénarios sont toujours possibles, rien n'est exclu, mais on a déjà vu, bon, ne prendre que l'exemple de l'Irak, on a déjà vu les sommes faramineuses qui ont été dépensées, notamment par les États-Unis, mais aussi par l'Union européenne et par les États membres en Irak depuis 2003, qui ont donné pas grand-chose. Et si l'on considère la période de 2003 et on voit que l'avènement, enfin, ou l'expansion de l'État islamique avait lieu en 2014, ou 2013-2014, ben, on voit très bien qu'il y avait 10 ans entre les deux et que la dépense pour le state building en Irak ou le state rebuilding ou rebuilding of the state en Irak n'a pas nécessairement éviter cette expérience de l'État islamique, ni évidemment montrer de grands effets ailleurs. Donc tout ça, un peu comme l'État islamique le fera, ça fondue dans le sable. Et ce n'est qu'une petite digression. Hein. Donc je crois c'est l'idée que maintenant on est dans une phase où entre guillemets le danger ou le défi a disparu et que ou bien tout va tomber va retomber en place. Ou que c'est le moment d'une reconstruction facile, à mon avis, c'est largement optimiste. Et la reconstruction, ou bien par les forces endogènes, ou avec l'aide des forces extérieures d'un État vraiment fonctionnel, comme il n'a d'ailleurs jamais vraiment existé en Syrie ni en Irak, hein, seulement dans certains domaines, ça serait une tâche ardue. Et ça, pour l'instant, je l'exclus. Même si, évidemment, à l'horizon des décennies et ainsi de suite, rien n'est à exclure. Maintenant, la reconstruction ou la réémergence d'un État arbitraire, autoritaire et par rapport à sa propre population terroriste, comme on l'a vu avant en Irak sous Saddam Hussein ou sous les Assad en Syrie, évidemment, c'est une possibilité beaucoup plus probable que la construction d'un véritable État. Ce sont des choses qui s'inscrivent dans la durée et qui dépendent des dizaines, des centaines d'années et qui, historiquement, évidemment, avaient besoin, et là, encore une fois, l'historien qui est Henri est beaucoup mieux placé que moi à décrire et à analyser, mais ce sont des processus qui, même en France et ailleurs, ont mis des siècles. Donc, on n'est pas à la veille de l'émergence d'un État, disons, weberien, comme nous disons dans notre jargon, ou d'un État qui ressemblerait à la France, à l'Allemagne et aux États européens. Alors, ceci d'autant plus ou d'autant moins que, si l'on regarde la situation en Irak, on voit quand même que, État islamique, oui ou non, c'est d'un pays qui est actuellement extrêmement clivé, et la même chose est vraie pour la Syrie. Et d'une certaine manière, l'émergence temporaire de l'État islamique n'était pas la cause des déboires de l'État irakien et de l'État syrien, mais était les effets. Parce que l'État irakien, l'État syrien, depuis assez longtemps, mais surtout dans une histoire relativement récente, étaient des États fortement clivés et des États où déjà ce critère weberien du monopole des forces de coercition, auquel on peut ajouter évidemment aussi de manière un peu plus gentille le monopole sur la construction des institutions et de la mise en pratique des politiques publiques, n'a pas vraiment eu lieu. Alors, si l'on regarde l'Irak et la Syrie aujourd'hui, on va remonter un petit peu dans l'histoire pour étayer davantage l'argument. Si aujourd'hui on regarde l'État et la Syrie, commençons par l'Irak, ben on voit quand même une division de ce pays assez forte. D'abord, il y a ces divisions que tout le monde connaît et que tout le monde croit connaître. C'est un petit peu la caricature de l'Irak, parce qu'en réalité, ce n'est pas exactement comme ça, mais le récit ou la représentation qu'on se fait de l'Irak n'est quand même pas tout à fait fausse. C'est que tout le monde sait qu'il y a, pour ainsi dire, trois parties. Alors, il y a un sud largement habité et dominé par des forces chiites. Il y a un centre qui est largement peuplé et dominé par des acteurs ou par des forces, des milices et ainsi de suite sunnites, même si ils sont quand même faibles et il y avait, pour ainsi dire, des incursions chiites. Et il y a un nord ou nord-est qui est largement kurde, ou qui est kurde, et qui, depuis 2005, depuis la constitution 2005, mais de facto 2003, jouit d'une certaine autonomie, au terme de la constitution de l'Irak, et qui est un peu différent. Donc on a deux parties de l'Irak qu'on décrit en général comme des parties, disons, qui seraient peuplées par des communautés religieuses, c'est assez dangereux comme terme, mais où en tout cas, il y a qui sont marquées, disons, religieusement, d'une certaine manière, et une qui serait marquée linguistiquement par la pratique de la langue kurde plutôt que par la pratique de la langue arabe. Et donc tout ça, c'est vrai jusqu'à un point, mais c'est en réalité évidemment beaucoup plus compliqué. Prenons la capitale, Bagdad, mais prenons aussi les villes comme Kirkuk, par exemple, qui étaient des villes souvent mixtes. Évidemment, dans un pays qui a été créé en 1920 officiellement sur les décombres de l'Empire ottoman et qui a vécu une période de centralisation et qui a vécu une sorte de... il y avait évidemment beaucoup de pétrole en Irak, il y avait des centres industriels, une certaine industrialisation. Et ça fait évidemment qu'il y a une migration des campagnes vers les villes, que les villes deviennent mixtes, même si parfois la mixité des villes n'est pas... il y a des quartiers sunnites, chiites, kurdes et ainsi de suite, mais pas seulement. Si vous regardez la carte de Kirkuk, par exemple, à Kirkuk, il y a quand même des quartiers qui sont quand même assez mixtes, où il y a des gens de religions ou de langues différentes qui vivent côte à côte. Donc, il faut regarder tout cela avec un petit peu de prudence, mais il est certainement vrai que l'État irakien aujourd'hui, et on voit ça dans la politique irakienne, que l'État irakien aujourd'hui, il est d'une manière ou d'une autre clivé. Et les chiites ne sont pas toujours d'accord avec les sunnites, et les sunnites ne sont pas toujours d'accord avec avec les Kurdes. Et ça se voit évidemment dans l'actualité. On a vu récemment le référendum kurde, la volonté de Barzani, d'un des leaders kurdes, de déclarer l'indépendance. Et voilà, c'est la dernière minute qu'on a, du côté des dirigeants kurdes, un petit peu mis de l'eau dans leur vin, ou plutôt, je ne sais pas si on peut dire dans leur vin, mais dans leur thé, voilà. C'est une expression de ce clivage. On voit que de temps en temps, les hommes politiques sunnites se retirent ou bien de l'Assemblée, ou en 2005, on boycottait les élections. Donc on voit très bien qu'il y a des clivages politiques qui coïncident aux clivages, disons, religieux et linguistiques. Et ça, depuis, actuellement, est la même chose, évidemment, vrai. Faut ajouter peut-être quand même que ce ne sont pas les seuls clivages. Après, on a d'autres groupes, comme les Turkmènes et comme les Yézidis, qui étaient évidemment dans les informations il y a quelque temps, qui aussi agissent un petit peu selon le modèle de l'identité linguistique, religieuse et ainsi de suite, qui forment des groupes qui, en anglais, il y a un joli mot, des us versus them groups, des we groups, des groupes identitaires. Parfois, on mobilise aussi le terme khaldunien de Hassabi, une sorte d'esprit de corps, comme Rosenthal l'avait traduit en anglais, et après,
Esprit de corps, comment on l'a traduit en français?
D'accord, voilà, donc Rosenthal l'a traduit, mais esprit de corps est devenu un mot anglais. Et donc, ces solidarités, disons, linguistiques ou religieuses. Mais il y a évidemment aussi des solidarités beaucoup plus réduites, des solidarités locales, régionales, familiales, souvent on dit tribales, et sans tout à fait savoir ce que c'est une tribu, ça c'est une autre question. Mais donc il y a toutes ces certes solidarités verticales qui sont actives et en Irak. Il y a aussi des différences politiques, c'est tout simplement que pas tous les chiites sont d'accord, il y a des chiites de gauche et des chiites de droite, pas tout le monde est d'accord sur la société, comment elle devrait être organisée, ou l'État, comment il devrait être organisé. La même chose en Syrie, on va passer juste de l'autre côté de la frontière, en Syrie, vous voyez très bien, tout le monde parle du règne des Alaouites, encore une fois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est certainement vrai qu'en Syrie, on a des sunnites, des alawites, des chrétiens, on a des druzes, on a des ismaéliens, et parfois les gens de la même, disons, dénomination de la même religion vivent géographiquement dans la même, vivent ou traditionnellement ont vécu dans le même coin. Les druzes dans le Jabal Druze, les alawites au nord, nord-ouest, mais tout ça c'est évidemment vrai et pas vrai. Comme en Irak il y avait l'urbanisation, il y a probablement aujourd'hui beaucoup plus d'alawites qui vivent, des dentistes et des alawites et des médecins alawites qui vivent à Damas, à Homs, dans les villes, que dans le réduit qui traditionnellement était le leur. Donc encore une fois, une subdivision du pays selon des critères religieux ou linguistiques, on a aussi les Kurdes évidemment au nord, serait très très difficile. Donc en Syrie comme en Irak, on a des clivages linguistiques, religieux, on a aussi des clivages évidemment familiaux et autres, on a des clivages entre guillemets tribales ailleurs. Et donc tout ça, ça fait que les États ne sont pas unifiés, que les uns souvent sont hostiles aux autres. Il y a des tensions, pas seulement, hein, mais il y a des tensions, et que évidemment il y a des forces politiques et des forces armées qui essayent ou bien de représenter les uns et les autres, donc qui sont connotés du côté linguistique ou religieux, ce qu'on appelle actuellement les salafistes qu'on trouve à Idlib ou d'autres qu'on trouve dans la Route de Damas ou bien Hayat al-Tahrir du côté d'Idlib, parents de Al-Qaïda ou Jaysh al-Islam plutôt du côté de la Route. Ce sont des gens qui sont évidemment opèrent dans un environnement sunnite. Ça ne veut pas dire qu'ils représentent les sunnites, mais on voit mal se déployer dans un cadre druze ou dans un cadre alawite. C'est évidemment l'armée, évidemment, elle est plutôt du côté alawite, même si largement elle consiste en sunnite. Donc on a des forces armées, des forces politiques et des forces armées qui plus ou moins représentent les différents groupes, et ça fait évidemment des clivages compliqués et des États divisés, qui étaient divisés avant l'avènement de Daesh et qui seront divisés après le départ de Daesh ou de l'État islamique. Donc là, il n'y a pas d'espoir que ça va changer rapidement ou que ça va changer profondément rapidement. Ce sont des États clivés. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, et ce n'est pas l'avènement de l'État islamique largement sunnite ou djihadiste qui a détruit l'unité de l'État ou de la Syrie. C'était l'unité qui était déjà détruite ou qui n'a jamais vraiment existé qui a donné naissance à l'État islamique. Et bon, peut-être il faudra juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ce qui est évidemment un caractéristique encore beaucoup très important de cet État islamique, qu'il était du côté irakien et du côté syrien, et qu'au fait, il a annulé cette frontière qu'on appelle en général, la ligne Sykes-Picot, même si Henri n'a de cesse de répéter qu'au fait, la vraie ligne Sykes-Picot, elle n'était pas exactement là. Je suis sûr que vous l'avez entendu à plusieurs reprises dans ce séminaire. N'empêche que c'est l'État islamique, évidemment, il était d'autant plus populaire qu'il avait annulé, qu'il avait transgressé, qu'il avait annulé une frontière que tout le monde croyait. Elle était une frontière coloniale, même s'il n'était pas la ligne Sykes-Picot, mais qu'il a annulé une frontière coloniale. Alors voilà, donc on est actuellement dans une situation de clivage profond dans les deux États qui ne va pas faciliter une reconstruction facile de cet État, ni par les forces intérieures, ni avec l'aide des forces extérieures, de USAID, de l'AFD, des moyens européens. Et ceci d'autant plus, évidemment, que ces clivages sociétaux dans ces pays, plutôt sociétaux que sociaux, ne sont pas si récents non plus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a évidemment éclaté au grand jour en 2003 en Irak après l'intervention américaine ou sous dominance américaine, quelque chose qui a éclaté au grand jour en Syrie récemment après 2011, pas tout à fait en 2011, mais disons à partir de 2012-2013 où il y avait une transformation du conflit contre le régime en régime partiellement identitaire, par exemple sunnite contre alawite au pouvoir. Mais c'est évidemment quelque chose qui s'inscrit dans une histoire de ces pays qui remonte au moins jusqu'au début, enfin pas seulement, qui remonte certainement au début du mandat, mais évidemment qui remonte à l'Empire ottoman. Ce sont des États qui étaient toujours divisés selon des lignes, disons, identitaires, ou l'Empire aussi, même si ces clivages ont changé de forme au cours de l'histoire. Ces clivages n'étaient pas exactement les mêmes, enfin, le tracé peut-être, mais la nature n'était pas exactement la même à l'époque ottomane, après 1920, qu'après la création des entités politiques syriennes, irakiennes, aussi libanaises, qui, après la fin des mandats, dans un processus parfois lent en Irak et en Syrie, après la Deuxième Guerre mondiale, sont devenus les États indépendants. Donc ça remonte évidemment très longtemps, et c'est d'autant plus difficile et de venir à bout de ces clivages. Ces clivages ont disparu un petit peu, et c'est évidemment là, on les a moins vus de l'extérieur, aussi certains les ont moins vus de l'intérieur, à une période précise, qui était, disons, la période des années 70, années 80, début des années 90, peut-être encore, où les États et les appareils d'État en Syrie d'une part et en Irak d'autre part ont réussi à s'imposer mieux sur leur société qu'avant. Alors, si aujourd'hui on parle de reconstruction de ces États, ou si l'on pense que c'est facile et que ces États vont reprendre, pour ainsi dire, leurs droits, on pense souvent à cette période qui est identifiée avec Saddam Hussein, d'une part, et avec Hafez al-Assad, d'autre part. Ce sont des périodes pendant lesquelles, en effet, on avait l'impression qu'il y avait un État syrien, qu'il y avait un État irakien, qu'il y avait, c'était des régimes évidemment fortement autoritaires, mais qui réussissaient, au prix du sang, s'imposer aux États qu'ils gouvernaient. C'était pour la Syrie la période que Michel Seurat a analysée dans L'État de barbarie, livre que vous connaissez certainement. Donc on avait évidemment l'impression d'un État qui pouvait s'imposer, mais qui s'est en effet imposé de manière assez brutale sur la société. Même chose en Irak, il y a une vaste littérature là-dessus, sur la répression, qui était le prix de cette apparition ou de cette apparence d'un État fort. Alors ça coïncidait avec une période qui était marquée par un certain nombre de facteurs qui ne sont plus tellement à l'œuvre aujourd'hui. Alors pour l'Irak, évidemment, c'était la période des prix de pétrole qui montaient, la flambée des prix de pétrole, et l'Irak, comme tous les pays pétroliers, ont tiré évidemment des bénéfices. Alors la rente pétrolière, encore une fois, comme vous savez, il y a une vaste littérature là-dessus, évidemment, même si les effets sont contestés, la rente pétrolière, elle permet à ceux qui sont dans le pouvoir d'en profiter, au moins sur trois plans. Et d'abord, ça leur permet de réprimer l'opposition, parce qu'on peut acheter des chars, des tanks, on peut payer des armées, des polices pour la répression. Deuxièmement, ça permet, aucun régime ni autoritaire repose uniquement sur la répression, mais deuxièmement, cette rente pétrolière permet au régime de trouver des alliés, d'acheter le soutien par des manières très différentes. Hein. On peut mener des politiques sociales qui sont généreuses, on peut permettre la corruption aux hommes d'affaires qui sont proches du régime. Tout ça, on peut l'appeler la cooptation. Le régime peut coopter des individus, des groupes, des couches sociales qui, après, deviennent la fondation de son pouvoir en interne. Et troisièmement, évidemment, cette rente pétrolière, elle permet toujours à un régime qui en bénéficie d'augmenter, de renforcer sa légitimité, justement par la cooptation, mais aussi en achetant la Coupe mondiale du foot. Je ne sais pas si l'Irak l'a fait, je crois qu'il ne l'a pas fait, mais il y en a d'autres qui le font. Il y a un certain nombre de choses qui permettent d'agir sur la scène internationale et d'augmenter la légitimité du régime. Alors, le marché du pétrole n'est plus exactement le même, les prix ont baissé, et on a très bien vu qu'aussi, qu'au fait, une bonne partie des revenus pétroliers de l'Irak, dont l'industrie pétrolière dans un mauvais état, ne parviennent pas nécessairement au régime. Donc, au fait, ce facteur-là qui avait contribué dans les années 70-80 à renforcer le régime irakien, voilà, n'est pas là actuellement. Alors, deuxièmement, évidemment, on parle des années 70, des années 80, on parle là aussi d'une conjoncture internationale qui était très favorable au régime autoritaire en Syrie et en Irak. Les deux étaient proches de l'Union soviétique de l'époque, dans la logique de la guerre froide. Et ce sont des régimes qui pouvaient se permettre un certain nombre de choses, qui étaient étayés, assistés, soutenus par l'un des deux pôles de la guerre froide, ce qui évidemment les a consolidés aussi. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait différente. Il n'y a plus d'Union soviétique, il y a certainement la Russie qui se cherche des alliés, mais la Russie, elle n'est pas l'Union soviétique, et la Russie aurait beaucoup de mal, et même aujourd'hui, on le voit dans les projets de reconstruction pour la Syrie, la Russie ne sait pas comment elle pourrait dégager ou qu'elle pourrait mobiliser les montants immenses qu'il faudrait pour reconstruire la Syrie. Donc la Russie n'est pas l'Union soviétique, la guerre froide, elle est terminée. Cette guerre froide-là, l'ancienne, elle est terminée. Et donc, la situation dans laquelle les régimes en Irak et en Syrie ont réussi à se positionner et à s'imposer sur leur société sont révolues. Voilà, c'est plutôt la Syrie. En Syrie, comme vous vous souvenez probablement, Hafez al-Assad, ancien président, le père de Bachar, avait à un moment très bien vu que, vers la fin de la guerre froide, qu'il ne pouvait plus bénéficier tellement d'un soutien de l'Union soviétique. Il a opéré des changements économique assez intéressant, une sorte de libéralisation économique qui, pendant quelques temps, qui s'inscrivait déjà dans la mondialisation, qui avait dans un certain temps renforcé son régime, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en permettant à des hommes d'affaires ou des milieux d'affaires en Syrie de s'enrichir et de développer le secteur privé, il s'est trouvé une nouvelle base au sein de sa propre population qui lui a permis d'exercer le pouvoir de manière plus facile pendant quelques années ou pendant une décennie. Mais tout cela, à la fin, bon, tout ça, ça serait le sujet d'une autre conférence, tout cela finalement a contribué à affaiblir au fait le régime syrien, parce que celui qui invite les forces de la globalisation, il invite évidemment aussi des conceptions culturelles, sociales, autres, qui renforcent des hommes d'affaires qui ne sont pas toujours d'accord avec le régime, et ainsi de suite. Donc, au fait, ça crée des tensions, et surtout, plus évidemment, le régime syrien s'était rapproché des milieux d'affaires, plus il a négligé ou dû négliger ses soutiens traditionnels parmi les fonctionnaires, parmi le petit capital, parmi les employés et ainsi de suite, qui avaient des intérêts différents. Et évidemment, il y avait des tensions supplémentaires, tout ça qui, évidemment, a mené, comme dans d'autres pays arabes en 2011, à la contestation. Alors, et donc, tout ça pour dire que il y avait en effet une période pendant laquelle, dans les années 70 et 80, jusqu'au début des années 90 pour la Syrie, où en effet on pouvait avoir l'impression d'un État fort, où il y avait la concurrence de certains facteurs, pétrole, guerre froide et pour la Syrie une certaine libéralisation économique qui ont temporairement renforcé les régimes, mais on n'est pas actuellement dans cette situation-là. Et donc, ce qui fait que on a du mal à s'imaginer aujourd'hui la résurgence en Irak et en Syrie, plus évidemment l'histoire qui s'est passée entre-temps. Évidemment, il y avait une histoire de contestation dans les deux pays, plus évidemment l'histoire qui s'est passée entre-temps. On a du mal à s'imaginer qu'il y aura un nouveau, ou que le nouveau régime de Bachar al-Assad qui est sur le plan d'émerger ressemblerait exactement à l'ancien régime de Bachar al-Assad ou encore au régime de Hafez al-Assad, même s'il sera autoritaire et pas nécessairement et pas démocratique. On a la même difficulté à s'imaginer en Irak l'émergence d'un nouveau régime de Saddam Hussein, même si évidemment rien n'est entièrement exclu. Donc cette option-là, d'avoir un État fort dans les deux pays, et sur la base de l'histoire des clivages dans la société irakienne et syrienne d'une part, et sur, disons, la base d'une expérience d'État fortement centralisé qui n'a duré que quelques décennies, au fait, ou qui n'a réussi que pendant quelques décennies, on a du mal à s'imaginer la réémergence ou la reconstruction d'un État aussi fort que par le passé. Alors voilà, donc et ça c'est une première conclusion. Maintenant, ce qui complique la chose, c'est en effet, comme d'habitude, l'histoire ne va pas uniquement dans un sens. Et l'histoire va toujours dans plusieurs sens. S'il est aujourd'hui pas très évident de voir une réémergence d'un État central très fort dans les deux cas, il ne faut quand même pas non plus s'attendre à une décomposition complète de ces deux États. Donc l'État islamique est parti, l'Irak va retomber dans ses frontières de Sykes-Picot ou semi-Sykes-Picot, la Syrie aussi. Il y aura des gouvernements à Damas et à Bagdad. On voit très bien que militairement, État islamique ou non, le gouvernement syrien actuellement a plutôt l'impression qu'ils ont gagné la bataille, même s'il y a encore des batailles à mener à Idlib, dans la vallée de l'Euphrate aussi, et dans le sud. Donc rien n'est définitivement gagné. On voit très bien qu'en Irak, bon, après le départ de ou la défaite militaire de Daesh, le régime irakien réussit, grâce aussi à ses milices, ou aux milices qui sont ses alliés, à s'imposer. Mais on voit très bien aussi qu'à Mossoul, en Irak, à Raqqa, en Syrie et ailleurs, la reconstruction, disons, autre que physique, on rétablit les réseaux électriques et on rétablit l'alimentation en eau, mais que toutes les questions de la répartition des postes, de la participation au pouvoir, des structures peut-être d'autogouvernance, de démocratique et ainsi de suite, que tout cela n'a pas avancé. Et on n'a pas l'impression que ça avance. Donc, au fait, on est dans une situation de fragilité de l'État, n'empêche que l'État, il est d'une manière ou d'une autre là, et non seulement l'État est là, mais il y a aussi un certain nombre de forces qui le stabilisent. Alors, la première est évidemment celle qui faisait défaut à l'État islamique, c'est la reconnaissance internationale. L'État irakien bénéficie d'une reconnaissance internationale, il est membre des Nations Unies. La coalition, la Russie, tout le monde, tous les acteurs qui sont sur place ou qui ont un intérêt dans l'affaire sont d'accord que l'Irak doit rester un État uni. Donc on est loin de l'idée du plan Biden, de l'ancien vice-président des États-Unis, de subdiviser l'Irak en plusieurs parties, justement chiites, sunnites et kurdes. Donc tout le monde est plus ou moins d'accord que l'Irak doit être uni, et on l'a vu encore une fois récemment au référendum kurde, c'est-à-dire toute la communauté ou la soi-disant communauté internationale a fait appel à Barzani et à ses alliés au Kurdistan, ou bien de suspendre le référendum, ou après de faire marche arrière, ce qu'il a fait. Et il y a un consensus international que les États doivent rester, on l'a d'ailleurs aussi vu récemment en Espagne, on a un consensus international de garder en place les États tels qu'ils existent, et un État comme l'Irak, évidemment, en tire non seulement une reconnaissance internationale symbolique qu'il peut dire à tout le monde, nous sommes légitimes, nous sommes là, mais liés à ça sont évidemment des transferts de fonds, des transferts d'armes, des transferts de ressources qui sont utiles, encore une fois, pour cet État central, de jouer sur les trois registres de la répression, de la cooptation, de la légitimité, et qui le consolide. Ça, c'est certainement vrai pour l'Irak. C'est aussi vrai, d'une certaine manière, pour la Syrie. Tout le monde est d'accord que la Syrie devrait rester un État, tel quel. Bon, toutes les négociations de Genève sont basées là-dessus. Il n'y a au fait pas d'acteur en Syrie qui officiellement contredit ce credo, ni même pas les Kurdes, bien que les Kurdes aient créé une sorte d'administration autonome actuellement dans une partie du nord de l'Irak, mais officiellement dans la déclaration, c'est une autonomie qui devrait s'exercer au sein d'un État syrien unifié. Toute l'opposition syrienne qui se réunit ici ou là est largement d'accord. Les forces extérieures aussi, personne ne veut démembrer la Syrie. Donc il y a un accord international, un accord interne, que ça doit rester. Maintenant, le régime syrien actuel, à la différence du régime irakien, n'a pas nécessairement le soutien de tous les membres de la communauté internationale, c'est vrai, mais l'État, en dehors du régime, oui. Le régime syrien a quand même le soutien très actif de quelques acteurs, pas nécessairement de la soi-disant communauté internationale telle qu'elle se manifeste au niveau des Nations Unies, mais il a quand même le soutien de quelques acteurs internationaux très très importants, comme la Russie, comme l'Iran, qui justement lui accordent un soutien symbolique et un soutien matériel qui est évidemment fort utile pour s'imposer sur le terrain. Donc on voit très bien que dans les deux cas, il y a une bonne nouvelle pour les régimes, malgré toutes les divisions internes qui contrecarrent un projet étatique nouveau, il y a quand même aussi la bonne nouvelle qu'on jouit de la reconnaissance internationale. C'est pas le seul facteur. Il y en a d'autres qui font que, et au moins les structures étatiques dans les frontières dans lesquelles elles existent actuellement ne sont pas toujours contestées. Alors il y a plusieurs exemples, ou plusieurs niveaux plutôt. Alors le premier niveau, c'est certainement la reconnaissance internationale qui bénéficie au régime en place et par extension aux États. Il y a deuxièmement, à côté des divisions profondes de ces États, parce qu'on a toujours dit, voilà, ce ne sont que des communautés en lutte les unes contre les autres, il y a aussi des choses, ou des liens plutôt, il y a des liens qui existent au niveau des populations. Alors, pas tout le monde en Irak se définit comme kurde, pas tous les chiites se définissent comme chiites, pas tous les sunnites se définissent comme sunnites. Il y a des gens qui sont plus neutres, il y a des gens qui travaillent les uns avec les autres, et surtout dans des institutions, parce que dans les deux États, il y avait la survivance, même peut-être la survivance... il y avait d'abord la mixité sociale dans certains quartiers, hein, comme on l'a vu à Damas, comme on l'a vu à Kirkouk, par exemple, mais il y a aussi des institutions qui ont plus ou moins continué à fonctionner. Nous avons... des institutions, des universités, même si elles ne fonctionnent très mal, des écoles où des gens de langue et de religions différentes continuent à travailler ensemble à titre individuel. Donc pas nécessairement en tant que membre d'un groupe d'identité, mais à titre individuel. On a ça. On a aussi évidemment le poids des États. Et les États syriens et irakiens, maintenant, bon... sans entrer dans les détails, on peut dire que ça remonte, mettons, au début du mandat, en 1920, même si la Syrie, par la suite, a été subdivisée par les Français en plusieurs États, et après, elle a été recollée. Mais disons, ce sont des États qui sont là depuis 1920, à peu près, qui ont développé des structures, qui ont exposé les habitants, là, c'est un argument évidemment institutionnaliste, qui ont exposé les habitants de ces pays aux mêmes pratiques, des pratiques étatiques, à la levée des impôts, à la conscription, à des politiques éducatives. On a instillé dans les têtes des habitants une certaine loyauté vis-à-vis de l'État. Et une loyauté qui est évidemment toujours en concurrence avec la loyauté, mettons, religieuse ou linguistique, n'empêche que ça marchait, il y a les drapeaux. Donc on a poursuivi malgré tout un certain nombre de politiques qui ressemblent aux politiques traditionnelles du state building, qui ont eu des effets. Donc les gens qui habitent ces pays ne sont pas seulement des membres de communautés isolées les unes par rapport à d'autres, mais sont aussi des gens qui sont d'une manière ou d'une autre ressortissants de ces États et qui ont tous des réflexes qui ont été produits par ces États pour éviter l'impôt ou pour éviter la conscription, ce qui implique aussi un certain nombre de solidarités. Donc nous avons au niveau de ces États une reconnaissance internationale qui les consolide. Nous avons une mixité sociale très réduite, n'empêche que nous avons des gens qui se marient à travers les frontières linguistiques et religieuses. C'est pas très courant, mais c'était beaucoup plus courant il y a quelques décennies. Récemment, on venait examiner une thèse. Hosni Zaïm, l'auteur du premier coup militaire en Syrie en 1949, bah, il avait des antécédents kurdes et arabes, par exemple, donc ce n'est pas du tout exclu. On voit beaucoup de gens en Irak aujourd'hui qui ne sont ni l'un des autres, qui sont les deux. On a donc une certaine mixité sociale, on a des institutions qui ont été imposées par les États et qui ont créé un certain nombre de réflexes ou de solidarités entre des personnes de langue et de religions différentes. Et tout ça ensemble, ça crée une réalité qui n'est pas celle uniquement de division. Donc nous sommes actuellement dans une situation dans laquelle ces États sont certainement, sur le plan de la société, fortement divisés, mais pas complètement divisés. Nous sommes donc dans un entre-deux, et c'est un entre-deux qui va, à mon avis, durer. On pourra dire qu'il y a peut-être 70 ou 80% de division et 20% de force plutôt centripète, hein, pas centrifuge, mais centripète, mais qui sont là quand même. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle il est prévisible que les États centraux, notamment, mais pas uniquement, grâce à leur reconnaissance internationale, vont persister. Il y aura un gouvernement central à Damas, il y aura un gouvernement central à Bagdad, mais qui seront des gouvernements centraux tout à fait contestés par d'autres forces politiques, qui, ou bien par le biais de manifestations, on l'a vu en Irak, ou par les armes qu'ils détiennent, vont perpétuellement défier les États centraux. On est donc dans une situation d'entre-deux où le gouvernement central, parfois, gouverne le pays de jour, mais pas nécessairement de nuit. Et cette situation-là, à mon avis, elle va durer encore pendant très, très longtemps. Il y a des conséquences à en tirer, je pense, sur deux plans, sur le plan de la politique étrangère. Il faut évidemment, dans un monde qui est fait d'État, il faudra évidemment toujours parler aux gouvernements centraux, tout en sachant évidemment, et on l'a déjà fait par le passé, on a beaucoup parlé aux Kurdes en Irak, sans parler au gouvernement central, il y a une réalité sur le terrain qui fait que le gouvernement central ne contrôle pas tout. Donc il faudra probablement, d'une manière ou d'une autre, même s'il faut prendre les précautions d'usage et ne pas glorifier les forces locales peut-être, mais il faudra parler à plus, pas seulement au gouvernement central. Ça a aussi évidemment des conséquences pour la reconstruction. La reconstruction, c'est une question qui se pose en Syrie ces jours-ci. À qui on parle ? Au gouvernement central, aux forces locales, aux forces qui restent ? C'est une question évidemment difficile, la réponse à laquelle n'est pas facile. Mais sur les deux plans de la politique étrangère et de la reconstruction de ces États, il y a la question qui se pose, à qui on parle ? Est-ce qu'on parle à un gouvernement central dont on sait qu'il ne règle que la moitié des choses, ou il n'est capable que de régler la moitié des choses ? Où est-ce qu'on parle aux forces locales aussi? Alors ça, évidemment, ça a des implications très importantes. Et ce sont des implications si l'on parle à d'autres, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Mais ça, c'est évidemment des questions qui ne se posent pas nécessairement ici sur le plan académique, c'est des questions qui se posent aux praticiens de la politique. Donc je terminerai là-dessus. Il n'y aura ni réémergence dans le court terme, ni réémergence complète des États, surtout pas, ne nous attendons pas à un nouveau État fort en Irak ou en Syrie, comme on l'a connu dans les années 70-80, mais ne nous attendons pas non plus à une décomposition complète, parce qu'il y a un certain nombre de forces qui tiennent ensemble ces édifices assez fragiles, et c'est quelque chose qui a toute la probabilité de durer, de perdurer encore pendant assez longtemps. Donc, ni résilience complète des États, ni reconstruction complète de ces États.
Je vous remercie.
Bref, c'est de l'injuste milieu.
N'est-ce pas?
Merci à Bérard. Ton exposé était un modèle d'abord de clarté et de structure de raisonnement, puisque tout s'engendre successivement dans ta ligne de pensée. Donc c'est une démonstration qu'on peut parler clairement et intelligemment de sujets complexes, ce qui est une très bonne chose. Dans nos jeunes temps, il y avait une foultitude de livres qui étaient sur le titre « Et tu sais, le yogi est le commissaire, le sphinx est le commissaire, le prophète est le pharaon, etc. » Ça s'est passé de mode aujourd'hui. Mais la question de la survie de l'État, bah, ce serait le livre à écrire entre le milicien et le fonctionnaire. Parce que tu n'as peut-être pas insisté sur un point essentiel. Ce qui explique la survie de l'État jusqu'à maintenant, c'est qu'il paye ses fonctionnaires. Et que, aussi bien en Syrie qu'en Irak, il y a une très importante...
C'est ce que j'appelle la cooptation.
Voilà. Bah, ce qu'on peut appeler clientélisme, etc. Bon, il y a en tout cas des centaines de milliers, voire des millions de fonctionnaires qui dépendent du traitement qui est réglé par Bagdad ou par Damas. Et ces traitements ne font pas vivre simplement les individus, mais des familles entières. Donc, en quelque sorte, il y a quand même une base sociale relative à l'État qui est cette fonction publique, même s'il est difficile aujourd'hui à Souleymaniyah, par exemple, tu as des manifestations extrêmement violentes donc, dans le Kurdistan irakien, dans la région plutôt hostile à Barzani, parce que les fonctionnaires ne sont pas payés. Et actuellement, le gouvernement central irakien fait pression sur la région autonome en lui coupant les vivres, et donc dans le but de lui saper sa base sociale, qui est justement le paiement de la fonction publique. Alors, par ailleurs, tu insistes à juste titre sur le fait que l'État islamique n'est pas la cause, mais plutôt une conséquence des événements. George Com a eu bien raison jadis quand il écrivait sur la guerre du Liban au moment où elle se déroulait, c'est-à-dire entre 1975 et 1990, de voir dans la guerre du Liban l'émergence d'un ordre milicien qui risquait de contaminer le reste de la région. Et là, en effet, tous ces événements peuvent être regroupés sous le nom d'ordre milicien. Que les milices soient kurdes, qu'elles soient l'État islamique, qu'elles soient les partisans de l'islam, qu'elles soient, etc. Nous avons partout les milices. Et donc, c'est pour ça que je propose comme titre le milicien, le fonctionnaire. Survie ou non de l'État au Proche-Orient, parce que bon, l'ordre milicien libanais n'a été liquidé que parce qu'il y a eu une occupation militaire étrangère qui a désarmé les milices. Alors, toute la question sera dans quelle mesure l'État central pourra reprendre le contrôle des régions en désarmant, neutralisant, etc. Les milices, et ça, c'est évidemment une question particulièrement ouverte, avec en plus le déficit de légitimité de cet État, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Mais en revanche, comme on n'est plus dans les périodes de guerre froide, on n'a plus de forces extérieures jouant à un fractionnement des États. Ces milices ne trouvent pas spontanément de soutien. Enfin, elles n'ont trouvé de soutien extérieur que dans la lutte contre l'État islamique. Une fois que l'État islamique n'est plus là, on ne voit pas quelle puissance continuerait à les alimenter en armes, en argent, etc. Sauf peut-être un petit peu par clientélisme politique ou moyen d'action. mais pour une fois, l'ingérence étrangère est beaucoup plus limitée dans les années à venir qu'elle ne l'était dans la période précédente. Alors, la marque de l'État et des milices, quand on se balade dans la région, c'est l'omniprésence des barrages routiers. Les fameux contrôles, etc. Alors, toute la question à la limite, c'est de savoir quand on passe du barrage de l'État au barrage de la milice. L'un comme l'autre pouvant tout à fait être prédateur. C'était quelques remarques que je voulais te faire. Tu réponds et puis on passe la question.
Et je n'ai pas parlé des fonctionnaires, c'est vrai. Et c'est un point important, pas seulement les fonctionnaires, mais aussi le secteur public. Nous sommes dans des États qui ont gardé, malgré une certaine, disons, réforme économique, libéralisation économique depuis les années 70, qui ont quand même, et surtout depuis les années 90, qui ont quand même gardé un secteur public assez important, c'est-à-dire des ouvriers, des employés rémunérés en dernier ressort par l'État. Et ils ont aussi gardé, évidemment, un appareil d'État assez important. Hein. On parle de la réduction du nombre des fonctionnaires en France. En Syrie, en Irak, il y en a beaucoup plus. Ce sont des gens qui sont payés par l'État, qui sont souvent mal payés, mais qui ont un travail fixe, qui ont des bénéfices sociaux, qui ont une retraite. Donc tout ça, ce n'est pas négligeable. Et ça, ce sont des gens qui forment dans les deux États une sorte de base politique, de base sociale et politique pour ce régime qui les défendent. Donc, si vous regardez au début de la contestation en Syrie, par exemple, il y avait évidemment des manifestations, il y avait des contre-manifestations. Vous vous souvenez qu'il y avait des manifestations en faveur du régime de Bachar al-Assad. C'est pas tous des gens, évidemment. On les a amenés en bus, on leur a payé la journée, on a fait un petit peu de pression, mais il y a aussi des gens qui, tout simplement, défendaient un régime qui les faisait vivre et survivre. Donc ça, il y a une base sociale qui est importante et qui, évidemment, est toujours là et qui consolide ces États d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, c'est évident. Et deuxièmement, tu as parlé du Liban et voilà, donc c'est juste peut-être pour dire, rebondir sur le Liban, d'une certaine manière, ce que nous voyons en Irak et en Syrie, on l'a aussi vu à une certaine époque au Liban, le Liban est d'ailleurs recollé, d'une manière ou d'une autre. Hein. Maintenant, jusqu'à quand ça dure, c'est une autre question. Mais vu comme ça, on peut tout à fait dire que peut-être, jusqu'à un certain point, on pourra aussi recoller l'Irak à la Syrie. Je ne dis pas que c'est nécessairement probable, mais il y avait une guerre civile au Liban qui a duré à peu près autant d'années que maintenant la guerre en Irak. Encore une fois, ce n'est pas identique, hein. Mais il y avait des clivages sociétaux, il y avait quand même un État qui restait quelque part présent. Pourquoi pas, hein. Donc, encore une fois, ne pensons pas que c'est la descente aux enfers, c'est déjà la descente aux enfers, mais que la descente aux enfers se traduise par une descente au chaos total, c'est peut-être trop pessimiste. L'ingérence étrangère. C'est vrai que une bonne partie, c'est-à-dire si l'on parle d'États clivés sur le plan de la société, comme en Irak, comme en Syrie, un des problèmes est évidemment qu'il y a beaucoup de qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas, qui pensent qu'ils ne s'entendent pas parce qu'ils parlent une langue différente ou ils pratiquent une religion différente ou ils pratiquent la religion de manière un peu différente. Qu'il y a donc ces clivages, disons, linguistiques et religieux, et que sur ce fond-là, il y a des groupes armés qui se forment, ou bien parce que les gens ne sont vraiment pas contents, ou parce qu'il y a des groupes armés qui arrivent et qui cherchent à exploiter ce mécontentement et qui cherchent à dresser les uns contre les autres. Alors, ça, c'est le problème intérieur. Le problème extérieur est en effet qu'une fois ça se passe comme ça dans un État, il y a... tout à fait naturel. Il y a des forces qui opposent l'État central, qui cherchent à trouver des soutiens extérieurs. Et souvent, évidemment, le lien, entre guillemets, religieux ou linguistique permet de trouver plus facilement un soutien extérieur. Bon, les chiites, on les dit en Irak, en équipe proche de l'Iran, ce qui n'est pas vrai pour tous d'ailleurs, hein, et c'est vrai pour certains, mais pas pour d'autres, du tout. On dit qu'il y a un axe chiite entre l'Iran, l'Irak, la Syrie, que Hafez al-Assad en tant que... Bachar al-Assad en tant qu'Alaouite, il est plus proche de l'Iran. Tout ça, c'est un peu vrai, ça aide à construire des liens, mais finalement, ce qui compte, c'est évidemment des politiques de pouvoir, des politiques d'influence. Mais, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que chaque acteur interne, ou bien essaye de chercher des appuis extérieurs, où il y a les puissances voisines, ou pas tellement voisines, mais aussi les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, qui essayent de se trouver pour avancer leurs propres intérêts, qui cherchent des acteurs en interne. Maintenant, et ça, c'était l'histoire de la Syrie depuis 2011, c'était l'histoire de l'Irak depuis 2003, et évidemment, déjà dans le passé, hein, si l'on regarde l'histoire de la Syrie, ben, elle était toujours divisée, il y avait toujours des acteurs intérieurs, extérieurs qui ou bien se sont mobilisés pour les uns et les autres, ou qui ont été mobilisés par ceux qui étaient à l'intérieur. Et maintenant, c'est vrai que dans la lutte contre l'État islamique, les États-Unis, par exemple, aussi l'Iran, ont évidemment beaucoup investi contre l'Irak, contre l'État islamique. N'empêche que les Iraniens et Hezbollah étaient déjà en Syrie avant le renforcement de l'État islamique. Ils vont probablement rester. Et les Américains, bon, ils ont beaucoup de mal probablement maintenant à s'extraire du nord de l'Irak, hein, mais ils sont toujours là. Les Turcs sont toujours là, en Irak, en Syrie. Les Turcs ont aussi d'abord occupé, après passé une partie de cette bande frontalière qu'ils ont occupée à leurs alliés. Donc, et certainement, ça a renforcé les ingérences extérieures, mais je crois que ça reste quand même encore... Hein.
Je pense que les ingérences extérieures sont plus faibles maintenant qu'elles ne l'étaient.
Tout à fait, mais je pense qu'il y en a toujours.
C'est le paradoxe de l'État islamique, c'est-à-dire en concentrant la force des coalitions opposées contre lui, il diminue de facto le nombre d'acteurs et amène une convergence de fait des actions des coalitions qui sont opposées. C'est-à-dire qu'avant 2013, c'était beaucoup plus brouillé comme carte.
Oui, mais n'empêche que, bon, il y avait des... Je suis d'accord avec le renforcement et l'affaiblissement, n'empêche que ça va pas disparaître.
La salle a la parole. Il y a un micro qui circule, des volontaires.
Oui, juste une question. Vous avez parlé des intérêts des forces extérieures qui les poussent à intervenir. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu ces intérêts ?
De qui particulièrement ?
Des plus importantes, la Russie, la France, l'Angleterre, les pays, la Turquie, etc. L'Iran ?
D'accord. Je réponds tout de suite ou... D'accord. Bien. Alors, écoutez, c'est une vaste question. Alors, on a vu, il y a beaucoup d'acteurs extérieurs qui essayent de jouer un rôle en Syrie et en Irak. Alors, on a parfois, évidemment, l'impression que les acteurs extérieurs sont plus importants que les acteurs intérieurs. Bon, les États-Unis la situation actuelle en Irak remonte au moins à 2003 ou en 1990-91. Première intervention américaine en Irak, d'abord pour la libération du Koweït, ou comme d'autres disent, pour la reconquête du Koweït, et la deuxième en 2003 pour définitivement se débarrasser du régime de Saddam Hussein. Donc là, il y avait des intérêts américains qui tenaient évidemment d'abord 2000 à chaque fois des coalitions internationales. Et maintenant, qui faisait partie de la coalition ? Maintenant, ces intérêts sont évidemment sujets à débat. Hein, si je prends uniquement les intérêts américains à l'époque, mais il y avait certainement en 91 la volonté de stabiliser le nouvel ordre mondial, d'ailleurs en coopération avec la Russie, hein, parce que la Russie était aussi opposée à l'occupation du Koweït que les États-Unis, donc on voulait stabiliser un ordre
un ordre post-guerre froide. Et ça, c'est certainement un intérêt. En 2003, évidemment, bon, on avait toute cette fabrication des preuves contre le régime de Saddam Hussein. N'empêche que, s'il a du mal à penser que quelqu'un croyait sérieusement, vu l'histoire de la fabrication des preuves, s'il en a du mal à penser que quelqu'un pouvait sérieusement penser que Saddam Hussein était en train d'avoir des armes de destruction massive, le pauvre était devenu tellement encombrant on voulait s'en débarrasser. Maintenant, je ne dis pas que c'était nécessairement une politique utile, hein, je ne dis pas ça, parce que si l'on regarde l'Irak aujourd'hui, on voit les suites de ce qui s'est passé en 2003. Autres exemples, hein, évidemment actuellement, si l'on parle de la Syrie aujourd'hui, je viens de dire que la Turquie a occupé largement par ses proxys une bande frontalière au nord de la Syrie, qui au fait, pas une bande frontalière, mais une sorte de triangle qui sépare les deux régions sous dominance kurde, parce que la Turquie actuellement, en tout cas ces jours-ci, ne veut absolument pas l'émergence d'un État kurde ou d'une entité politique kurde dans le nord de la Syrie. Elle estime que c'est un État qui serait lié au PKK kurde et que ça poserait à terme, ou pas seulement à terme, mais très rapidement, des difficultés pour la viabilité et la consolidation de l'État turc. Maintenant, on peut décliner ça. Les Iraniens ont certainement besoin de leur côté. Il y a une forte implication iranienne en Syrie. Les Iraniens, de leur côté, pensent qu'ils ont besoin d'un allié. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'alliés dans le monde. Alors, la Syrie était depuis très longtemps, la Syrie d'abord de Hafez al-Assad, après la Syrie de Bachar al-Assad, était depuis très longtemps liée à l'Iran, en fait, depuis la révolution, on peut dire, depuis la révolution iranienne. Il y a une sorte de lien historique qui, pour la République islamique, est le seul acteur régional vraiment avec le Hezbollah sur lequel ils peuvent se reposer. Et évidemment, un État qui se sent, je ne dis pas qu'il l'est, mais qui se sent mis au banc sur la scène internationale, il a besoin, subjectivement en tout cas, d'alliés. Voilà, donc on peut décliner ça. Maintenant, il y a tellement d'acteurs. Vous avez parlé de la Russie, mais pour la Russie, maintenant, la Russie qui se sent sur la défensive elle-même, encore une fois, je ne dis pas qu'elle l'est, mais qui se sent sur la défensive depuis assez longtemps, qui s'est vue qualifiée de pouvoir, de puissance régionale et pas mondiale par le prédécesseur du président américain actuel, la Russie, elle doit, pour ces raisons, pour des raisons, disons, de politique internationale, mais aussi des raisons internes, se présenter, enfin, le gouvernement russe doit se présenter comme un acteur international de taille. Et pour ça, évidemment, il a besoin de soutenir ses alliés. La Syrie était depuis très longtemps un allié de la Russie, même s'il y avait des hauts et des bas dans ses relations. Et pour un État comme la Russie, qui déjà était sur la défensive sur le plan international, il était absolument important de soutenir un allié et de montrer au reste du monde que être allié de la Russie pouvait payer, pouvait être utile. Alors maintenant, il y a d'autres raisons. Et c'est certainement utile d'avoir une base navale à Tartous. Je pense que pour la Russie, la Syrie n'est pas si importante en tant que Syrie, mais en tant qu'alliée, et pour montrer que la Russie est de retour sur la scène internationale. On peut décliner. Il y a tellement d'acteurs, mais ça, c'est une réponse, disons, tentative et rapide à votre question qui est très vaste.